Chapitre 35. Elsa. Merci, docteur. Je vous rachèterai des Kleenex. J'ai repris le travail lundi. Jusqu'à la dernière minute, j'ai failli ne pas y aller. Mais vous aviez raison, ça m'a fait beaucoup de bien. Les autres morts m'ont détourné du mien. Vous savez, depuis que je fais ce métier, j'ai rencontré des centaines de défunts et des milliers de chagrins. Avec le temps, je pensais que ça me ferait l'effet d'une préparation, un peu comme les gens que l'on met au contact de l'allergène pour qu'ils s'y habituent et se désensibilisent. Je pensais qu'être aux premières loges de la vérité, qu'avoir quotidiennement la preuve que nul n'échappe à la perte d'être cher, qu'on y passe tous, rendrait la chose plus acceptable. Je me disais ça, du haut de mon ignorance. Quelle bêtise! La mort arrive à tout le monde. Ça ne la rend pas moins scandaleuse. Mon père n'était pas vieux. Pour mon fils, il l'était sans doute. Je me revois au même âge penser que ma mère de 40 ans était vieille. Mais il ne l'était pas assez pour mourir. Il y a un âge où on ne dit plus « il était trop jeune ». Mon père n'y était pas encore. Mais les dégâts infligés par l'AVC lui prédisaient une vie qu'il n'aurait pas voulu. D'aussi loin que je me souvienne, il m'a toujours dit « si un jour je deviens un légume, si je perds la boule, tu me piques ». Il disait ce terme « piquer ». Il avait la phobie de finir comme sa mère, de parler à une chaise, de ne plus reconnaître ses proches, de fixer le mur des journées durant, de se perdre dans les couloirs, de s'enfermer dans sa tête, de déambuler sans but. On nous a prévenus de ce qu'il attendait, s'il survivait. Ne plus marcher, ne plus conduire, ne plus se laver seul, ne plus boire liquide que de la gelée, ne plus trouver les mots, ne plus faire ce qu'on a envie de faire, simplement, sans assistance, sans organisation, sans limite. Son existence serait devenue une longue liste de ce qu'il avait perdu. Et moi, je n'aurais pas tenu ma promesse, faite un jour où ce n'était qu'une phrase. « Oui, papa, je te piquerai. » Quelques jours après son AVC, j'ai cru lire la supplication dans son regard. J'ai dit au médecin qu'il n'aurait pas voulu d'acharnement. Il m'a demandé s'il l'avait écrit quelque part, s'il avait rédigé des directives anticipées. Ce n'était pas le cas. Même en travaillant dans ce milieu, je n'avais pas pensé à formaliser quoi que ce soit. Comme si mon métier ne le concernait pas. Nos proches ne sont jamais concernés par la mort. Le regard du médecin m'a soupçonnée d'être celle qui voulait en finir. J'ai eu le sentiment atroce de vouloir abréger la vie de mon père, alors que c'était tout le contraire. Même dépendant, même diminué, j'aurais voulu ne jamais avoir à me passer de lui. En sortant sur le parking de l'hôpital, mon frère s'est effondré. Je l'ai pris dans mes bras. J'ai prié, Elsa. J'ai prié alors que je crois pas en Dieu. Écoute, si Dieu peut nous ramener papa, je veux bien prier avec toi. J'ai pas prié pour qu'il vive, Elsa. Je me suis mise à pleurer aussi. La nuit tombait. On s'est serré fort au milieu du parking désert. Deux adultes en proie à un chagrin d'enfant. Pendant les 11 jours qu'a duré son agonie, je me suis accrochée à l'idée que ce serait une libération. Je mettais là tous mes espoirs de consolation. Ce n'est pas le cas. Rien ne console l'absence de ceux qu'on aime. J'ai repris lundi matin. Une carte posée sur mon bureau, contenant un mot de tous mes collègues, était la seule preuve de ma parenthèse. Ils m'ont accueillie comme si on s'était vu la veille, hormis Christiane, la maîtresse de cérémonie, qui m'a gratifiée d'un câlin entre deux portes, et Pierrot, un porteur, qui a dit l'air de rien mais assez fort pour que j'entende, « Moi, quand j'ai perdu ma mère, j'étais au boulot 1 heure après. » Je n'ai pas réagi. Il fait partie de ces gens qui n'envisagent pas que l'on puisse fonctionner différemment d'eux. Mais Kader, un autre porteur, s'en est chargé. « Les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. C'est pas pour ça qu'il faut les exposer au grand jour. » Première heure. Premier appel. Un défunt à aller chercher à son domicile. Sa fille est arrivée peu après lui. Mon âge. Grande, blonde, sonnée. Je l'ai accueillie d'un sourire. On ne dit pas bonjour. Ce n'est jamais un bonjour quand on pousse cette porte. Fille unique, parents divorcés, elle était seule à s'occuper des démarches. Elle a dû faire des choix, crémation ou inhumation, cérémonie religieuse ou civile, quel cercueil, quelle tenue, quelle préparation du corps, publication de l'avis de décès ou non, et à chaque fois la même réponse, « je sais pas ». Elle m'a raconté son père, ce gaillard survivant de 3 cancers, finalement emporté par une crise cardiaque, ce boulanger qui toute sa vie s'était levé aux aurores sans rechigner, cet homme qu'elle n'avait pas assez vu enfant, qu'elle n'avait réellement découvert qu'une fois adulte, ce jeune retraité qui se rattrapait avec ses enfants à elle. C'est quand elle a parlé d'eux que la digue a cédé. Après son départ, Christiane est venue me demander si ça ne m'avait pas trop remué. « Tu as dû te reconnaître en elle, ma pauvre. » Elle me caressait l'épaule. J'ai hoché la tête pour ne pas contrarier sa gentillesse. La réalité, c'est que je n'ai même pas remarqué la similitude entre nos histoires. J'ai énuméré les points habituels, j'ai recueilli ses paroles avec application. C'est bizarre quand même. Un rempart s'est dressé entre le monde et moi. Je suis devenue insensible à la tristesse, à la douleur des autres. J'ai déjà trop à faire avec la mienne. Mais je m'émeus d'un rayon de soleil qui traverse une goutte de rosée ou de la parole amicale d'une caissière. Tenez, vous savez pourquoi je pleurais en entrant dans votre cabinet? Parce qu'un type que je connais à peine a pris le temps de chercher un livre, de réfléchir à un message, de l'écrire, juste pour me faire sourire. Et ça m'a bouleversée.